Le 6-9 LFM.
Parlons conso avec Bon à savoir.
On n'y échappe pas, on soupire quand on ouvre sa boîte aux lettres, les factures, mais pas de panique. Dans son dernier numéro, le journal Bon à savoir fait le point sur les questions et idées reçues les plus fréquentes à ce sujet. Tout ça pour éviter les mauvaises surprises.
Bonjour Laura Dron.
Bonjour LFM.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine et aujourd'hui vous venez partager les bons conseils de vos juristes. Mais on ne part pas de zéro, on sait bien que la première règle avec les factures, c'est qu'on a 30 jours pour payer. Est-ce que c'est correct?
C'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posé, mais aucune loi ne fixe de délai universel, ce fameux 30 jours pour payer est donc une idée totalement reçue. En principe, une facture est payable tout de suite, à moins qu'un délai ne soit clairement indiqué, et si rien n'est précisé sur votre document, vous ne pouvez pas présumer que vous avez un mois devant vous tranquillement pour le payer. C'est le créancier qui décide du délai. Moralité, il faut toujours lire votre facture jusqu'au bout et dans le détail. À noter que le délai commence à courir dès la réception de la facture, mais si son émetteur vous reproche un retard de paiement, ce sera à vous de prouver la date à laquelle vous avez effectivement reçu votre douloureuse.
Et certaines entreprises récompensent les payeurs les plus rapides sous forme d'un pourcentage de réduction. Est-ce qu'on peut réclamer cette ristourne en payant ses factures particulièrement tôt?
On appelle ça un escompte et c'est une faveur commerciale, pas un droit malheureusement. Même chose pour les paiements échelonnés. Si vous voulez payer une partie de la facture à la réception, une autre partie un peu plus tard, il faut un accord de votre créancier et vous ne pouvez pas décider par vous-même d'agir ainsi. Vous risquez d'être en retard de paiement. Donc, si vous avez besoin d'un délai, petit conseil, c'est de contacter directement l'entreprise ou le commerce en question. Il faut exposer votre situation, convenir d'un échelonnement et ne pas faire ça sans concertation.
Quand on paye via e-banking, les choses vont très rapidement. On est d'accord que le paiement est immédiat ou presque ?
Normalement, oui. Mais ce n'est pas une règle généralisée sur laquelle on peut compter. Donc il arrive que l'ordre soit retenu avec un temps de latence et il faut vraiment en tenir compte. Donc sachez par exemple que vous pouvez payer au guichet postal, ça se fait encore pour certaines personnes, et que là le tampon de la poste fait foi, vous pouvez verser l'argent le dernier jour du délai imparti. C'est une règle qui ne s'applique pas au droit du bail, attention pour votre loyer, l'argent doit parvenir sur le compte du bailleur à la date limite, sans quoi c'est le retard.
Et si l'entreprise prétend ne jamais avoir reçu mon paiement, quel document produire pour démontrer que tout est en ordre ?
Vous voyez ce moment un peu agaçant où vous voyez bien que l'argent est parti de votre compte, mais où on vous dit qu'il n'est pas arrivé à destination. Malheureusement, ni le reçu postal, ni une capture d'écran de votre e-banking, ni même le virement bancaire avec l'option imprimée qui s'affiche à côté, ne sont des preuves formelles. En fait, ces documents démontrent tous que vous avez bien fait un paiement, que l'argent est parti, mais ils ne prouvent pas que le destinataire a reçu son argent et ils n'ont de valeur que vis-à-vis de votre banque. La seule preuve incontestable reste un petit peu old school, c'est le paiement de main à main avec confirmation signée de la personne à qui vous deviez cet argent. C'est le seul moyen de prouver que le créancier a bien été payé.
On en arrive à un thème qui revient en force chaque automne, les factures de primes d'assurance maladie. Ayo, dans votre dernier numéro, vous livrez des conseils pour limiter la casse et ne pas paniquer devant cette hausse annoncée.
Oui, on a lu et on a entendu partout que cette hausse de 4,4% en moyenne pour 2025 nous attend. Et chaque année, il y a une question qui revient de nos abonnés. Ils sont fâchés en constatant que leurs primes augmentent plus que ce chiffre très médiatisé. En fait, je vous explique cette subtilité, ce chiffre correspond à la hausse moyenne nationale. Pour tomber sur ce 4,4%, la Confédération a additionné toutes les primes payées dans le pays. Elle a divisé ce chiffre par le nombre total d'assurés, enfants y compris. C'est donc un chiffre indicatif, ça ne s'applique pas à votre prime personnelle, ça dépend de votre canton, de votre assureur, de votre franchise et tout ça. Et donc une hausse moyenne de 4,4% n'empêche pas que votre prime grimpe de 8 ou 10%. Donc bon, on a fait notre maximum pour accompagner le public, pas à pas, dans notre dossier, pas paniquer.
Et vous nous donnez aussi un conseil, si jamais on change d'assurance, c'est de veiller justement aux factures de primes impayées. Visiblement, on risque des ennuis si on ne s'en préoccupe pas.
Oui, point essentiel, votre changement d'assureur ne sera pas validé si vous avez du retard dans le paiement des factures de votre assurance. Donc avant d'envoyer votre résiliation, il faut vous assurer que tout est bien payé. Une facture oubliée peut vous bloquer une année entière.
Bon, on passe à une idée plus réjouissante. Une fois tout ça payé, une fois les factures réglées, nous voilà libres. On peut en faire joyeusement des allumes-feux.
pas trop vite la revanche incendiaire. Hein. Notre conseil, c'est de garder un maximum de vos factures médicales, notamment pour tout ce qui n'est pas payé par l'assurance de base. C'est un conseil en vue de votre prochaine déclaration d'impôt, je sais, c'est une autre perspective très réjouissante en plus des factures. Hein. Mais donc, lunettes, lentilles, soins dentaires, certaines thérapies, médicaments non remboursés par la base, vous pouvez les déduire de vos impôts si ces frais dépassent un certain montant de votre salaire. Ces règles varient selon les cantons, donc renseignez-vous, mais en tout cas, c'est toujours bon à prendre. Et il faudra encore garder votre paperasse dans un tiroir parce que techniquement, la loi suisse demande de garder ses factures au moins 10 ans. La règle s'applique avant tout aux entreprises. Pour les particuliers, on ne va pas venir fouiller l'entier de vos classeurs de factures, mais c'est une bonne pratique quand même, recommandée, même si ce n'est pas une obligation formelle.
Et de quoi est-ce qu'on parle d'autre dans ce bon à savoir numéro 10 du mois d'octobre ?
On a plein de choses, par exemple, combien vaut votre smartphone à la revente dans les magasins de seconde main. On a aussi des astuces de congélation, combien de temps on peut congeler quoi, et ne laissez pas décongeler les affaires à température ambiante, c'est très très dangereux, et même si vous n'en êtes jamais mort, c'est pas une raison pour le faire.
Même le pain comme ça, on sort pas le pain du...
Non, on fait décongeler au four, exactement.
Ah, ouais. Ah, au frigo autrement, voilà, ouais, passer voilà. Du congélé au frigo.
Exact. Mm-hmm. Plein de bons conseils.
Et ben, les voilà. Détails dans bonasavoir.ch. Merci beaucoup Laura.
Merci
LFM. Fin de semaine.
Le 6-9 sur LFM.